Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les élèves sont en vacances depuis bientôt un mois, mais ce sont déjà les maux de tête pour les parents, dont beaucoup dénoncent la multiplication des frais que de nombreuses écoles imposent aux parents de payer pour garantir une place à leurs enfants, même si ceux-ci fréquentent la même école depuis longtemps. Mais aussi et surtout, des frais obligatoires à payer avant le début de la rentrée scolaire, appelés pour certains à compte, frais des bulletins ou de la carte ou encore frais des médecins ou dons. Les parents dénoncent également le fait que les enfants vont en vacances sans leur bulletin alors qu'ils ont déjà déboursé les frais exigés par les écoles pour l'obtention de ces documents. Quelle analyse faire de ces frais multiples qu'exigent chaque année de nombreuses écoles de la RDC aux parents avant la rentrée scolaire? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission M. Nestor Maroy. Il est promoteur d'école en RDC. Est-ce qu'il est là, Nestor Maroy? Voilà, il n'est pas encore là. Ici au studio, nous avons Jean-Pierre Tshiswa Bantou. Il est chercheur et doctorant en psychologie de l'orientation à l'Université pédagogique nationale. Il intervient ce soir aussi bien comme parent et expert en éducation. Bonsoir, M. Jean-Pierre Tshiswa Bantou.
Merci pour l'invitation. Bonsoir, je salue tous les auditeurs et auditrices de la Radio Café.
Et en ligne, Jean Bosco Pouna, il est secrétaire général de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Bonsoir, M. Jean Bosco Pouna.
Allô?
Bonsoir, monsieur Jean Bosco Pouna. Merci et bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Les élèves sont en vacances depuis bientôt un mois, mais ce sont déjà les maux de tête pour les parents, dont beaucoup dénoncent la multiplication des frais que de nombreuses écoles imposent aux parents de payer pour garantir une place à leurs enfants, même si ceux-ci fréquentent la même école depuis longtemps. Mais aussi et surtout des frais obligatoires appelés à payer avant le début de la rentrée scolaire, appelés pour certains à compte, frais des bulletins ou de la carte ou encore frais des médecins ou dons. On écoute les témoignages d'un parent au micro des radios Okapi.
Ils doivent payer la totalité des frais scolaires. Par exemple, chez les catholiques, c'est autour de 400-500 dollars pour les classes de recrutement, donc 5e. Et si votre élève, et votre enfant plutôt, vient dans une classe montante, mais si c'est sa première année dans cette école-là, là, je parle des écoles conventionnelles catholiques et protestantes, là aussi, il paye la totalité des frais, même s'il est en 8e ou en première année des humanités. Mais si c'est sa première année dans cette école-là, il doit aussi payer la totalité des frais, c'est-à-dire autour de 450 dollars. Ça, c'est mon expérience et nous avons essayé de les dénoncer en son temps, mais bon, apparemment, l'État ne nous écoutait pas ou bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre ces écoles et les ministères, parce que on a beau dénoncer, mais en tout cas, il n'y a pas eu de changement. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, hein, en tout cas, pour les parents qui doivent inscrire leurs enfants en 5e année, ils doivent payer la totalité des frais. Avant même la fin du mois de juillet, ici, on a exigé à ce que tous les parents payent la totalité, sinon leur enfant n'aura pas de place. De mon expérience, là où ma fille étudie, il y a certains frais que nous payons là. Bon, ils disent que c'est le frais du gouvernement provincial ou du gouverneur. C'est autour de 2500 francs. Et puis, il y a 1000 francs ou 1500 francs pour les bulletins. Et encore un autre problème avec ces bulletins-là. On nous exige de payer, de donner l'argent du bulletin au début de l'année, au mois de septembre. Mais arrivé au mois de juillet, après la proclamation, ces bulletins ne sont toujours pas prêts. Ne sont jamais prêts. Il faut aller les prendre un mois ou deux mois après la fermeture de l'année. Et pourtant, on exige cet argent au mois de septembre. Les frais de confirmation. L'enfant qui est dans cette école-là, pour ceux qui ont les cycles primaires et secondaires, un enfant qui est là depuis la première année primaire, il passe toutes ses classes jusqu'à arriver à terminer les primaires. Il passe au secondaire. Ici, il faut payer les frais de confirmation. Moi, je peux être dur, je suis désolé, je n'ai pas un autre mot pour l'expliquer, c'est du vol, carrément c'est du vol. Quand on parle des frais de confirmation, pour moi, c'est du vol. Je n'ai pas un autre mot pour substituer à cela. Et l'État devait s'impliquer pour aider un peu les parents.
Voilà. Nestor Maroy, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là, c'est ce que la réalisation m'a dit. Jean-Pierre Chiswabantou, vous êtes chercheur et doctorant en psychologie de l'orientation à l'Université Pédagogique Nationale. Vous intervenez ici en tant que parent et expert en éducation. D'abord, une réaction après avoir suivi les témoignages de ses parents.
Oui. Je crois que la réaction de celui que nous venons tout à l'heure de suivre semble être fondée parce que en cette période où nous sommes tous confrontés à une crise économique et une conjoncture économique qui constitue une impasse pour les parents, c'est normal que un parent présente pareille plainte en cette période, surtout alors que la rentrée scolaire s'annonce très très imminente là. Mais au fait, ici je voudrais en tant qu'expert préciser une chose parce que j'ai suivi une très très longue analyse de l'auditeur, dire que la confirmation pour tout élève en début de la scolarité est d'une exigence, d'une importance capitale dans la mesure où il y a ce qu'on appelle des mortalités scolaires. Ce n'est pas pour dire que lorsqu'un enfant termine une année scolaire, c'est aussi une garantie qu'il peut revenir l'année prochaine. Au fait, il y a deux exigences. Les exigences pour revêtir la qualité ou la casquette d'un élève, il faut d'abord commencer par confirmer son inscription. Le coût, oui, les parents doivent avoir raison. Moi, j'aurais souhaité à ce que l'État qui réglemente le fonctionnement de l'enseignement démocratique du Congo puisse aussi mettre en place des mécanismes de suivi, parce que tout à l'heure là nous aurons des circulaires de la ministre de l'Éducation nationale qui donnent des instructions et des orientations. C'est bien bon de les prendre ainsi, mais il faut aussi des mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement pour s'assurer que les chefs d'établissement au niveau des écoles ne partent pas au-delà de ce qui peut alors se présenter comme un fardeau ou une charge sur les épaules des parents.
Et quels sont les frais qui sont exigés officiellement?
De manière officielle, il faut qu'il y ait d'abord une confirmation. Cela est fixé chaque début de l'année, ce qui a été demandé l'année qui vient de s'achever. Ne sera pas aussi demandé l'année prochaine ou l'année qui va commencer. Il peut y avoir une révision à la baisse ou soit une révision à la hausse. Mais l'accent doit beaucoup être plus placé sur le fait que l'État congolais, pouvoir organisateur de l'enseignement qui décide, qui édicte ces mesures, il faut qu'il mette aussi en place les mécanismes d'accompagnement, les inspecteurs, une équipe qui sera au fait chargée de surveiller les chefs d'établissement dans le respect, parce qu'il y a même ceux qui partent plus loin, ils peuvent conditionner la confirmation d'une inscription par $50, 150, alors que en cette période où la conjoncture économique semble être très très compliquée, ça pèse un peu sur les parents. Je crois que c'est là que se situe l'impasse dans cette affaire.
Les frais des bulletins, les frais de la carte, les frais des médecins ou dons, ces frais sont souvent estimés à combien?
Je n'ai pas au fait les modalités de la manière dont cela est estimé, mais je voudrais ici en tant qu'expert attirer l'attention des parents sur le fait qu'il n'y a pas au monde une école qui peut être gratuite. Il n'y a pas au monde une école qui peut être gratuite. Lorsqu'on parle de la gratuité, au fait, c'est une gratuité qui a toujours été financée parce qu'à l'école, nous avons une dimension dite de ressources humaines. Nous avons l'enseignant Cuprest qui doit être énergisé, qui doit être recyclé, qui doit être formé, parce qu'on ne peut pas se contenter de sa formation initiale. D'où cet argent doit toujours aussi servir pour énergiser celui qui preste. Et pour ce qui est de l'assurance, pour ce qui est des maladies et des bulletins, c'est comme je le disais, il n'y a pas vraiment une école qui doit être gratuite au monde. Lorsqu'on parle de la gratuité, il y a plutôt une gratuité qui est financée. Le bulletin, chaque élève doit en acheter. Mais c'est plutôt le prix qui doit être respecté, comme cela a toujours été fixé. Je crois qu'il y aura de la nomenclature, et c'est dans cette nomenclature où tout sera annoncé.
Il y aura ça quand?
La ministre de l'Éducation nationale, je ne suis pas son avocat, je ne travaille non plus pas au ministère de l'Éducation nationale, je suis simplement expert en sciences de l'éducation. Je crois qu'au début de chaque année, il y a toujours une directive qu'elle a toujours signée. Dans cette directive, il y a des instructions qu'elle donne souvent aux chefs d'établissement, et parmi ces instructions, je crois qu'on a toujours donné les modalités d'inscription. On fixe même la grille tarifaire de ce qui concerne les frais, entre autres les acomptes pour les écoles privées et le frais d'inscription, le bulletin, à quel moment faut-il percevoir le frais des bulletins. Mais il faut, comme je le disais, que ceux qui reçoivent les instructions de la hiérarchie soient suivis, qu'on mette en place des mesures d'encadrement, pourquoi pas aussi des mesures contraignantes pour ceux qui partiront à l'encontre de ce que l'État qui organise l'enseignement dans notre pays va prévoir. Lorsque vous essayez de partir à l'encontre, vous subissez la rigueur de la loi. Je crois que les autres prendront cela pour modèle et ils chercheront comment se conformer à ce qui a toujours été dit par l'État.
Voilà, on a même l'impression qu'il y a un laisser-aller, hein, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État puisse, dans sa nomenclature, prévoir des frais pour la confirmation. Et lorsque on va jusqu'à taxer aux parents des montants allant de 200 à 300, 400 dollars comme frais de confirmation, est-ce que l'État peut insérer ça dans sa nomenclature? Ou ça, c'est seulement au niveau des écoles que l'on prend de telles initiatives?
Ces pratiques sont beaucoup plus rencontrées dans les écoles privées, mais je crois que ces écoles ne peuvent pas fonctionner comme des électrons libres dans un pays où la loi existe. Les promoteurs, les représentants sont là, je crois qu'ils ont toujours des rencontres avec la hiérarchie et ils essayent de tabler là-dessus. Mais que l'État prouve son efficacité sur le terrain, parce que l'État a l'œil partout et puis il voit partout. Et aussi autre chose, les frais là sont fixés en concertation, c'est-à-dire il y a toujours eu dans chaque école les réunions qui se tiennent entre les acteurs pédagogiques, c'est-à-dire les dirigeants de l'école ainsi que les parents, ou soit les parents se font toujours représenter par celui qui a reçu mandat de le représenter.
Et pourquoi, ce qu'on appelle le comité des parents.
Le comité des parents, voilà.
Justement, on ne voit pas les rôles du comité des parents. Hein. On a l'impression que le comité des parents, bon, cautionne tout ça.
Il y a des comités des parents, les membres, parce que c'est ça aussi le problème avec les syndicalistes. Les comités des parents, en quelque sorte, sont des syndicats, des représentants des parents, et ils se font des fois membres de membres de l'équipe dirigeante ou des acteurs qui prestent au niveau de l'école, parce que
il arrive des fois
qu'il y ait des rétrocommissions, parce que moi je suis sur terrain, je suis expert, je suis chercheur, ce sont des cas que nous avons rencontrés. Mais lorsque le parent lui-même commence à travailler contre ses collègues qui l'ont mandaté pour qu'il puisse alors parler et faire entendre leur voix aux réunions qui consistent à négocier ou fixer le frais en début de la rentrée scolaire, qu'est-ce que l'État va alors faire? Parce que c'est lui le représentant, puisqu'il est revêtu de cette casquette, c'est lui qui devrait maintenant signaler au pouvoir politique qui organise l'enseignement, voilà dans telle entité décentralisée de notre pays, voilà ce qui se passe. Voilà. Et lorsque l'État se saisit de cette affaire, je crois que nous sommes en face d'un État très très puissant, un État qui agit de manière très très efficace pour mettre tous les Congolais dans des conditions susceptibles de leur permettre de se sentir un peu à l'aise et humain.
On peut conclure qu'il y a une sorte de complicité entre les comités des parents et les écoles?
Effectivement, il y a une sorte de complexité pour des raisons, je peux dire, de raisons de confidentialité. On peut taire les noms de certaines écoles où nous avons personnellement rencontré les parents qui se plaignent, acquisant la complicité de les représentants avec les promoteurs des écoles. C'est pratique, c'est beaucoup plus dans les écoles privées, où après que les parents aient payé les 450 $ pour la compte, le représentant des parents passe dans les coulisses prendre son pourcentage et il est content, il est le premier à motiver les autres parents dans les groupes WhatsApp. Ce sont des pratiques qu'il ne faut pas encourager, ce sont des pratiques qui fragilisent les parents, surtout ces dons actuellement pour réunir 100 $ américains, ce n'est pas facile.
Merci. Nestor Maroy, est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est lui le promoteur d'école, mais il n'est pas encore là. On continue avec ceux qui sont présents. Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Bonsoir, parce qu'on s'est raté au début de l'émission.
Oui, bonsoir.
Alors, quelle analyse vous faites de ces frais multiples qu'exigent chaque année des nombreuses écoles de la RDC aux parents avant la rentrée scolaire?
Bon, il faut dire que jusqu'à maintenant, à notre point de vue, Madame Lamineta n'a pas encore sorti la circulaire sur fixant les différents frais qu'on doit payer. Mais déjà, je dois vous dire que les frais dits d'inscription, les frais de confirmation, les frais de suivi à l'examen d'État ou encore les frais pour le retrait du certificat, ce sont des frais prohibés. Prohibés alors. Donc, les parents, en principe, ne devraient pas être sollicités pour ces différents frais. Inscription, confirmer l'inscription. Et je crois que nous attendons, nous tous, la circulaire fixant les frais que madame doit prendre. Nous ne savons pas pourquoi ça traîne, mais nous pensons que, parce qu'apparemment, elle n'est pas là, dès qu'elle va revenir, il faudrait absolument prendre cette circulaire pour éviter tous les désordres que nous constatons dans les écoles. Mais je voudrais ici revenir sur les différents niveaux d'études que nous avons aujourd'hui. Vous avez au niveau primaire, tout le monde le sait, là-bas, eh bien, c'est la gratuité. La gratuité, parce que j'ai suivi l'expert qui dit que, bon, les études, il faut toujours payer quelque chose. Il a raison. Il y a ce qu'on appelle les frais directs et les frais indirects. Et les frais directs, c'est ce que l'État a pris en charge au niveau primaire. Et donc, au niveau primaire, jusqu'au niveau des évaluations, les enfants qui sont dans les écoles publiques ne payent absolument rien. Il faut simplement noter, à ce point de vue-là, que la situation de l'enseignant s'est systématiquement dégradée, parce qu'en contrepartie, il n'y a presque rien. Mais au moins, les parents ne payent rien à ce niveau. Mais là où il y a un problème, c'est au niveau de certaines écoles conventionnées, notamment, qui sollicitent les parents pour payer quand même quelque chose au niveau primaire, mais au titre de... On contourne la nomenclature au titre de frais de construction ou encore pour la peinture, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut absolument dénoncer. Il y a également certaines écoles qui indiquent carrément aux parents d'aller payer quelque chose au niveau de la banque. Mais en contrepartie, il n'y a pas de preuve de paiement. Donc ça, ce sont des problèmes que nous rencontrons au niveau des écoles primaires. Et comme l'a dit l'expert, il est important qu'il y ait un suivi sur terrain pour que les choses se passent normalement. Mais alors, au niveau de l'éducation des bases, donc les classes de 7e ou 8e, eh bien, les élèves payent. Malheureusement, là aussi, et au niveau du secondaire général, là également, il y a une nomenclature de frais, il y a une fourchette qui avait été déterminée qu'il ne devrait pas dépasser $300. C'est-à-dire, c'est de 150 à $300 comme frais d'études, comme frais de scolarité. Malheureusement, la circulaire qui avait instauré les frais d'appui qu'on devrait payer aux enseignants, eh bien, ce n'est pas respecté sur le terrain. Il y a des écoles l'année passée, par exemple, les écoles des Jésuites ou les écoles protestantes, qui ont demandé $500, s'il vous plaît, aux parents. Et les parents qui ne s'acquittaient pas, les élèves n'avaient plus droit aux enseignements. Donc voilà les différents problèmes que nous avons. Il y a un véritable problème de suivi, il y a une véritable léthargie au niveau du ministère. Madame la ministre doit se réveiller, parce que c'est pendant cette période qu'on doit commencer les rencontres avec les différents partenaires, notamment les parents, hein, parce que ce sont les parents qui seront sollicités pour payer tous ces différents frais, les différents frais, notamment les frais de bulletin, etc. Un autre point que je dois signaler, c'est par rapport aux frais indirects. Alors, la malice des écoles, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on impose aux parents les uniformes, la tenue de la gymnastique, les baskets à porter au prix exorbitant. Et le ministère n'agit pas. Et donc, nous pensons au niveau du syndicat, il faut absolument que cette chose soit corrigée pour que nous puissions quand même alléger la tâche des parents. Parce que socio-économiquement, nous tous, nous savons que les parents ont véritablement des problèmes. Et là également, vous avez épinglé le rôle des COPA et le rôle.
Allô, Jean Bosco Kouna. Jean Bosco Kouna.
J'interpelle la NAPECO. Oui, allô.
Oui, ça s'est détérioré à un moment donné. Allez-y.
Oui, donc là, j'interpelle les différentes associations des parents, notamment la NAPECO et la PEC. Eh bien, mais ces associations doivent jouer leur rôle pour que les parents ne soient pas exposés hein, à tous ces frais qui sont sollicités et parfois indûment au niveau des écoles.
Voilà, la NAPECO,
à ce niveau.
Oui, vous évoquez les cas de la NAPECO, c'est des organes qui ont été mis en place, n'est-ce pas, pour empêcher, pour d'abord défendre les intérêts des parents, mais aussi empêcher que les écoles ne puissent abuser. Mais on se rend compte que ces organes ne jouent pas ces rôles-là. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui remettre en cause ces organes?
Bon, mais il faut dire que d'abord, ce sont des organisations privées, mais en tant qu'organisation privée, ce sont des associations qui travaillent directement avec les parents qui sont au niveau des écoles. Mais aujourd'hui, ces associations vraiment ne dépendent plus valablement les parents. Donc vous comprenez que c'est une mise en cause totale. Il faut absolument qu'ils se réveillent, que ces dirigeants, ces acteurs se réveillent pour protéger et l'école et pour protéger également les parents. Regardez, aujourd'hui dans toutes les écoles, on est en train de construire des immeubles. Le patrimoine de l'école est presque menacé, mais les associations des parents se taisent. Alors nous ne savons pas cette complicité-là vient d'où. Donc nous, en tant que syndicat, nous devons protéger l'outil du travail. Il faut protéger les parents, il faut protéger la gratuité, mais il y a bien d'autres acteurs, notamment les associations des parents, qui doivent jouer leur rôle. On les voit dans la supervision des examens d'État, parce que là-bas, on peut trouver quelque chose. Mais je crois qu'ils ont une mission sacrée à pouvoir jouer pour protéger et les parents, mais également l'outil du travail, également les écoles, qui sont aujourd'hui vraiment à la merci de tous ceux-là qui peuvent venir construire des bistrots devant les écoles. Et donc l'école aujourd'hui a presque perdu son image. Et je crois qu'il faut absolument que ces associations se remettent en question et continuent à jouer les rôles du départ.
Et selon les informations à votre possession, qui sont bénéficiaires de tous ces frais supplémentaires que les écoles exigent aux parents avant la rentrée scolaire? Est-ce que les enseignants aussi bénéficient de ces frais supplémentaires?
Bon, mais il faut dire que les enseignants, qu'est-ce qui leur revient? Parce que déjà, les différents comités de gestion qui avaient été instaurés autrefois n'existaient pas dans les écoles. Et donc la gestion, elle est opaque et les enseignants se contentent des miettes qu'on leur donne. Étant donné que les comités de gestion ne sont pas dans les écoles, tout l'argent qui entre au nom des frais d'appui, parce que ça devrait compenser les difficultés des enseignants, malheureusement ce n'est pas le cas. Il y a des écoles qui sont parties comme ça, je parle des écoles où on sollicite encore la prime auprès des parents, il y a des écoles qui sont parties mais qui n'ont pas pu payer leurs enseignants. Je ne vais pas commencer à les citer ici, mais le moment va arriver où nous allons commencer à interpeller toutes ces autorités scolaires. Donc l'argent est sollicité pour énergiser, pour utiliser les termes de l'expert, pour motiver l'enseignant, mais cet argent-là n'arrive pas dans l'assiette de l'enseignant hein, en totalité. Dès lors que vous n'avez pas un comité de gestion pour retracer tout ce qui entre, eh bien c'est un véritable problème. Et aussi, lorsque vous exigez aux parents $500, c'est-à-dire vous ne respectez pas le seuil qui a été fixé, le seuil qui vous interdit de dépasser $300, eh bien, vous comprenez que les écoles aujourd'hui sont à la merci de tout le monde. Et donc, le secrétaire général doit se réveiller, mais la Mineta en premier, pour protéger les écoles, parce que pendant les vacances ici, en tout cas, les parents ont des problèmes.
Voilà. Je rappelle qu'on devait avoir le secrétaire général de l'éducation dans cette émission, mais toutes les démarches qui ont été menées n'ont pas abouti, malheureusement. Monsieur Jean Bosco Kouna, on apprend que les écoles rétrocèdent une certaine quantité de ces frais à l'État. Est-ce que vous confirmez ces informations?
Oui, mais nous confirmons, il y a un pourcentage qui va dans tous les bureaux de l'État. Hein, d'abord au niveau des bureaux gestionnaires, tous les bureaux gestionnaires, eh bien, les regards sont braqués là-dessus. Donc, les écoles, les chefs d'établissement ont de véritables problèmes. Il y a une quantité, je ne sais pas exactement la hauteur, mais les informations que nous avons, c'est 20% qui doivent être rétrocédés au niveau des bureaux gestionnaires et 20% qui doivent être rétrocédés au niveau de certains bureaux de l'État. Parce que vous voyez, au niveau des écoles conventionnées, nous avons les coordinations, mais au niveau des écoles non conventionnées, eh bien, vous avez les différentes directions provinciales. Et donc, les chefs d'établissement restent avec 60%. Et là-dedans, il doit avoir les frais de fonctionnement. Vous comprenez, qu'est-ce qui reste à l'enseignant qui doit véritablement travailler? Voilà les contrastes au niveau. Et vous allez bien vous rendre compte que l'enseignement est au rabais, les enseignants ne sont pas bien motivés. Là, nous parlons du secondaire. Mais pour les primaires, c'est véritablement... une situation chaotique que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi, au niveau du syndicat, nous ne cessons d'appeler le gouvernement, d'interpeller le gouvernement pour mettre en place une politique salariale. Sans cette politique salariale, eh bien, les écoles sont en train de mourir.
Et donc, c'est une situation qui est connue et entretenue aussi bien par certains services de l'État et aussi par les écoles. Et devant une telle situation, les parents sont désarmés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Mais les parents sont désarmés, mais ils doivent savoir qu'ils sont des citoyens. Lorsqu'on nous donne une gratuité qui n'a pas de contenu, 6 ans après, tout le monde a évalué que cette gratuité n'a pas de contenu. Et donc, beaucoup de parents ont commencé à retirer leurs enfants pour les amener ailleurs, à gauche, à droite, dans les écoles privées. Et là, quand ils arrivent aussi, eh bien, ils sont à la merci des promoteurs d'école. Vous comprenez, l'école, véritablement, n'est pas protégée. Si la gratuité n'est pas protégée aux primaires, eh bien, il y aura toujours des problèmes par rapport à la qualité des enseignements qu'on doit donner à notre jeunesse. Et donc ça, ce sont des véritables problèmes. Vous devrez véritablement travailler, mais on ne la voit pas suffisamment sur ces questions-là. C'est vrai qu'elle est sur les questions de l'intelligence artificielle pour bien arranger l'examen d'État, etc. Mais il y a des véritables problèmes pour donner un contenu réel à l'éducation, aux enseignements que nous donnons dans les écoles. Donc la situation est très difficile pour les... J'ai parcouru, je suis allé dans quelques provinces du pays. Mais laissez-moi vous dire que c'est très compliqué. Avec les zones salariales, les enseignants ne savent pas travailler. Et l'encadrement pédagogique ne se fait plus. L'enseignant peut venir 3 fois la semaine, eh bien le directeur n'a rien à faire, n'a rien à dire. Et donc ça sont des questions qui doivent préoccuper le secrétaire général de l'UNC et aussi la ministre des tutelles. Sinon, c'est compliqué.
Merci Nestor Maro, promoteur d'école en RDC. Apparemment, il n'est toujours pas là alors qu'il avait donné son accord de principe pour participer à cette émission. Mais malheureusement, lorsque l'émission commence, il ne décroche plus son téléphone. Jean-Pierre Tshibantu, nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Hein. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Maître Olimwengu Kitungano Joseph, j'interviens depuis la ville de Bukavu. L'exigence aux parents de payer certains frais scolaires pendant les vacances n'est pas en soi un problème, car d'une part, c'est aider ses parents à quitter partiellement et certaines de leurs obligations qui les attendent. En revanche, c'est la multiplication de ces frais et les faire obligatoires dans un délai qui est perçu comme un problème. Si par exemple l'école demande les frais de confirmation aux parents pour l'année scolaire prochaine, ces frais ne seraient pas obligatoires. Les parents qui en payent s'acquittent déjà de cette charge et d'autres les payent l'année à venir. S'agissant des bulletins, il y a des problèmes. Premièrement, les autorités habilitées ne délivrent pas les bulletins aux écoles ou dans les délais, ou soit ici, elles les délivrent. Les écoles aussi, à leur tour, ne les donnent pas aux élèves, de peur que les élèves ne les quittent pour aller s'inscrire dans d'autres écoles, une situation qui est purement illégale. Les autorités devraient fortement réguler ce secteur pour qu'il n'y ait plus de désordre. Et tous les acteurs, parents, élèves, chefs d'établissement, enseignants, inspecteurs, doivent suivre ce que dit les lois de la République démocratique du Congo en matière de l'enseignement.
Monsieur Jean-Pierre Tshibantu.
Il
Il a totalement raison, l'intervenant, l'auditeur a totalement raison. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que nous devons décourager la gratuité parce que la gratuité a comme corollaire en lingala ofélé. Et comme nous le connaissons tous, ce qui est gratuit, ou ezala kofélé, c'est-à-dire et bébé déjà, ezala déjà moisi, il n'y a rien de plus bon dedans. Donc, nous parlons presque le même langage.
Donc ce n'était pas une bonne réforme.
Nous n'étions pas encore prêts, parce qu'il fallait que la gratuité soit financée pour que le parent en séjour évite de pousser les cris que vous êtes tout à l'heure en train d'entendre et avant l'émission et pendant l'émission.
Elle n'est pas financée aujourd'hui.
Elle peut être financée, mais nous mettons l'accent sur les mécanismes, de suivi, ou soit pas suffisamment, comme vous le dites, parce que ce qui dit gratuité doit être financé et l'éducation. Nous ne devons pas seulement considérer toutes les autres dimensions, mais nous devons aussi mettre à l'esprit que l'éducation, c'est l'accès et aussi la formation. L'accès, on fait référence à tout ce qui est infrastructure. Vous vous rendrez compte que, vous verrez plutôt que dans certains coins de la République démocratique du Congo, parce que nous avons tendance à considérer Kinshasa comme l'unité de mesure du bien-être en RDC, alors que la réalité qu'il y a dans le province, la réalité qu'il y a dans des villages les plus reculés, cette réalité fait couler le larme. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en main, qu'il fasse aussi du sérieux une qualité, en prenant des mesures et en mettant aussi les mécanismes d'accompagnement en place pour contraindre tous ces responsables des écoles à se conformer à la loi. Les écoles privées, surtout ce secteur-là, c'est là qu'il y a vraiment le désordre. Ces écoles ne doivent pas fonctionner dans un état où il y a les lois, dans un état où il y a les dirigeants. Ces écoles ne doivent non plus pas fonctionner comme des électrons libres. Les histoires comme des bulletins, nous ne savons pas aussi comment expliquer le fait qu'une année académique, une année scolaire plutôt à 220 ou 222 jours, mais toutes ces semaines, tous ces mois, le ministère n'imprime toujours pas le bulletin.
Bien voilà, Albert Richard, depuis le quartier central, il nous écrit, il dit, j'aborde directement les problèmes des bulletins. Les parents ont payé les frais, mais le gouvernement n'a pas remis les bulletins aux écoles. Que pouvaient alors faire les écoles dans ces cas?
Ça inquiète. Il faut que l'État disponibilise tout ça parmi les documents qu'il faut remettre à l'école tout juste au début pour éviter que les écoles maintenant où le promoteur à leur tour signe des partenariats privés avec des bureautiques de gauche à droite en ville et les bureautiques en fonction de leur humeur, ils impriment et ils vendent et puis l'État, le promoteur à leur tour viennent revendre ça aux parents parce qu'ils vous disent que les écoles c'est pratiquement des entreprises, nous ne refusons pas, l'école a une dimension entrepreneurial par le simple fait que celui qui a investi doit aussi récupérer, mais même cette récupération doit se faire dans le respect des principes. Lorsque l'État lui-même n'arrive toujours pas à disponibiliser cela, c'est ce qui fait qu'il devienne même fragile pour contraindre les responsables de ces écoles à appliquer. Voilà pourquoi l'appel des différents intervenants, je le réitère, celui de demander au ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence celle qui a cette charge entre ses mains, d'essayer un peu de redéfinir la manière de faire les choses cette nouvelle année scolaire 2026-2027 qui va tout à l'heure commencer pour qu'il y ait une tranquillité et que pareil cri d'alarme cesse d'être entendu à nos oreilles.
Merci, monsieur Jean-Bosco Puna. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Kananga au Kasaï Central.
Hervé Kasunga, Kampashi, depuis Kananga, dans la province du Kasaï Central. La question des frais multiples imposés par les écoles avant la rentrée scolaire est un sujet sensible qui touche directement les familles et révèle des tensions profondes dans notre système éducatif. Ces frais multiples traduisent une crise de gouvernance éducative. D'un côté, l'État a proclamé la gratuité de l'enseignement primaire. Mais dans la pratique, les écoles trouvent toujours des moyens détournés pour compenser le manque de financement. D'autre part, le parent se sent pris en otage. Payer pour garantir une place ou obtenir un bulletin devient une obligation, même dans des écoles où leurs enfants sont déjà inscrits. Nous rappelons que l'éducation est un droit, pas une marchandise, et les frais imposés fragilisent la confiance entre parents, écoles et alimentent un climat de frustration. Les autorités doivent renforcer le contrôle et la régulation pour éviter les abus tout en garantissant aux écoles un financement suffisant pour fonctionner dignement. Les frais scolaires qui s'accumulent chaque année deviennent un véritable fardeau pour les familles. Derrière ces pratiques, c'est la dignité des parents qui est mise à l'épreuve et l'avenir des enfants qui est compromis.
Jean-Bosco Puna.
Oui, en effet, je crois que l'auditeur a presque brossé ce qui ne marchait pas. Hein, je prends les cas des bulletins, lorsqu'on doit revenir sur des bulletins, mais c'est marrant. Parce que les bulletins, c'est un imprimé qui doit être, qui doit accompagner le travail du maître. On ne doit pas attendre qu'on arrive à la fin de l'année pour qu'on commence à chercher les bulletins. Et lorsque vous consultez ces bulletins, vous allez trouver certains bulletins n'ont pas les maxima requis. Et donc l'enseignant doit travailler les bulletins, les retravailler. Et lorsque l'enseignant a mal travaillé un bulletin, il doit l'acheter. Mais c'est quel genre de pression sur l'enseignant, sur les écoles? Et si vous prenez, avant le ministre Moussemena, il y avait les bulletins que les écoles imprimaient, notamment les écoles conventionnelles imprimaient leurs bulletins, eh bien nous n'avions pas ces problèmes. Donc dès le 2 juillet, chaque enfant pouvait avoir son bulletin. Aujourd'hui, ça devient un luxe, mais c'est pas possible.
Et donc, Monsieur Jean Bosco-Pouna, un bulletin qui est imprimé par une école, est-ce qu'il a toute sa valeur? Est-ce qu'on peut le considérer si l'élève voyageait et il veut aller étudier à l'étranger?
Non, le bulletin n'était pas imprimé par les écoles. Le bulletin était imprimé par les différents bureaux gestionnaires. Je prends les écoles conventionnées. Les écoles conventionnées imprimaient des bulletins. Et ça a fonctionné comme ça il y a, je crois, il y a 5 ans qu'on a instauré le système de bulletins uniformisés, unifiés, hein, qui devait venir de l'inspection. Mais autrefois, les bulletins étaient imprimés et le gouvernement, le ministère, avait autorisé que les différentes conventions impriment les bulletins. Mais alors, lorsque le gouvernement a récupéré, parce qu'il était de bon aloi que le gouvernement récupère, que le ministère récupère, pour que nous ayons un seul bulletin à travers le pays, mais on devrait être conséquent. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette irresponsabilité que de ne pas être en mesure de pouvoir produire le bulletin pour que les écoles soient capables de le remettre aux enfants à la fin de l'année? Ça devient récurrent et ça devient inquiétant. Ce sont les parents qui ont payé, mais parfois les bulletins ne sont pas délivrés, ne sont pas donnés, mais parfois ces bulletins viennent très tardivement, et ce sont des bulletins parfois qui ont des coquilles et qui posent de véritables problèmes. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas corriger. Nous pensons que le ministre doit véritablement voir toutes ces questions-là. Il y a également la question relative à la transparence des frais qui sont payés. Eh bien, s'il y a une gestion transparente, les gens ne vont pas beaucoup s'inquiéter. Je dois rappeler ici que même les écoles privées doivent savoir que l'école, c'est un service d'utilité publique. On ne crée pas une école pour aller se faire de l'argent. Et donc, les écoles privées doivent se conformer à la loi. Et l'État doit suivre, parce que les écoles privées, bien sûr, viennent à la rescousse de l'État, mais ils ont les programmes nationaux. Tout ce que les écoles privées utilisent, c'est le programme qui est édicté par notre ministère. Donc nous pensons que nous tous, tous les partenaires, doivent privilégier l'intérêt de l'enfant, qu'il soit dans le régime privé ou encore dans le régime public. Parce qu'il n'y a pas, un enseignement privé. L'enseignement que nous avons, c'est le programme national que nous tous nous respectons. Donc une fois de plus, nous interpellons et la MINETA et le secrétaire général, mais aussi l'inspecteur général, parce qu'à ce niveau, c'est là où on est en train de délivrer les bulletins. Il faut absolument que cette histoire-là s'arrête.
Saint Boniface nous écrit, il dit « Bonsoir la radio Capi, je suis dans l'enseignement depuis longtemps, la situation des bulletins est réelle, aucun bulletin des 7e et 8e n'est disponible à la division du Haut-Katanga 1, précisément dans la ville de Lubumbashi, voire même certains bulletins des humanités ne sont pas disponibles, donc la problématique des bulletins scolaires, la faute est dans les mains de la ministre de l'Éducation. Monsieur Jean Bosco-Pouna, dans le cadre des concertations entre vous et le gouvernement, vous n'avez jamais évoqué ce genre de questions, non seulement la question des bulletins, mais aussi tous ces frais supplémentaires, hein, cette multiplicité de frais que les écoles exigent aux parents avant la rentrée scolaire.
Bien sûr, la question est toujours évoquée. Et nous interchangeons, nous interagissons avec le ministère, avec des correspondances, et nous interpellons à tout moment. Mais il faut qu'il y ait un écho favorable. Lorsque l'écho n'est pas là, eh bien, voilà des situations que nous déplorons aujourd'hui. La question des bulletins, c'est depuis l'année passée qu'il s'est posé. Hein, cette année, il y a eu quand même quelques améliorations, mais voyez-vous, il y a encore des coins où les enfants sont partis sans bulletin. Donc je crois que les autorités de l'éducation nationale sont interpellées au plus haut point. Il faut qu'on corrige toutes ces questions bien avant. Nous parlons, nous abordons ces questions lorsque nous rencontrons les autorités. Ils nous font des promesses, mais à la fin, eh bien, voilà le fiasco.
Merci. Monsieur Jean-Pierre Tshiswabantu et monsieur Jean Bosco Pouna, vous allez réagir à la réflexion de l'éditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani. On va commencer par vous, Jean-Pierre Tshiswabantu. C'est Befonga, Jacques Befonga.
Bonsoir, c'est le sprinter Jacques Befonga, Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchop. Chaque année, c'est le même scénario. Avant même la rentrée, le parent doit payer les encomptes, des frais de bulletins, des cartes parfois, acheter obligatoirement les uniformes et les fournitures à l'école. L'éducation tend à devenir un marché. Premièrement, le responsable numéro un, c'est l'État. Lorsque l'État ne contrôle pas efficacement les établissements et ne fait pas appliquer ses propres décisions, il crée un vide que certains exploitent. Ensuite, certains établissements développent une véritable logique commerciale en multipliant des freins qui ne reposent pas toujours sur un fondement réglementaire. On ne forme plus seulement des élèves, on vend des prestations. Il est temps que le gouvernement rétablisse l'autorité de la loi, contrôle efficacement les écoles et sanctionne toute perception des frais non autorisés. L'école est un droit, pas un commerce.
Ça rejoint M. Jean-Pierre Tshiswabantu. Oui, comment réagissez à ces...
Il a presque frôlé ou émis sur la même longueur d'onde que moi, parce que je l'ai dit, je crois, en introduction ou pendant mes différentes interventions, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun pays au monde qui parle de la gratuité. Il s'agit plutôt de la gratuité financée, c'est-à-dire l'État arrête un certain montant qui ne pourrait pas constituer un fardeau sur les épaules des parents, et lorsqu'il arrête ce montant par des circulaires, par les arrêtés, il le communique aux différents responsables des écoles pour que ces derniers, à partir de là qu'ils sont, qu'ils les appliquent. Pourquoi? Parce que l'école exploite des ressources, les ressources qui sont humaines, les ressources qui sont matérielles et les ressources d'ailleurs qui sont financières, les ressources là qui permettent de s'occuper par exemple de l'enseignant qui preste à l'école comme formateur des enfants, parce qu'il ne faut pas toujours se contenter de ce que l'enseignant a amené en milieu scolaire comme formation. Il faut plutôt actionner les autres activités comme le recyclage, comme la mise à niveau, parce qu'il y a certainement les innovations qui interviennent au cours de sa carrière et que lui n'avait pas suivi à l'université pendant sa formation, et tout ça, ça a un coût. Et aussi, il y a les circonstances où l'école a suffisamment besoin de moyens pour fonctionner, entre autres lorsqu'il faut avoir des matériels didactiques qui doivent faciliter l'apprentissage. Mais tout ça, lorsque l'État le dit, la Constitution est très claire, c'est lui qui définit la politique des institutions, et l'éducation nationale est une institution. Il ne doit pas seulement se limiter à la définition de la politique de la manière dont cette institution éducation nationale doit fonctionner, mais il faut aussi qu'il se débarrasse un peu de son confort dans le bureau qui est climatisé, et qu'il descende sur terrain pour se rendre compte de l'applicabilité de ce qu'il lui-même a dit. Non seulement il faut chercher comment se rendre compte de l'applicabilité, mais il faut aussi mettre en place des moyens. Lorsque l'État ne met pas en place les moyens, c'est alors que les responsables des écoles dans nos quartiers, dans nos communes et nos provinces se comportent en électron libre, et ça pèse énormément sur les parents. Si cette émission avait 4 heures du temps, vous devriez continuer à enregistrer des cris, et je suis sûr que cela tombe aussi dans les oreilles de ceux qui sont à la table des décisions. Ils verront comment recadrer leur tir pour que cette nouvelle année scolaire soit vraiment non pas un chemin de la croix ou une torture, et pour les parents et aussi pour les élèves.
Et comment voulez-vous que les parents soient, plutôt l'État soit sévère, là où on découvre que certains services de l'État bénéficient de ces frais? Il y a une certaine complicité.
Oui, bon, lorsqu'il y a complicité, lorsque l'État découvre qu'il y a... Parce qu'on ne peut pas défier l'État. L'État est un pouvoir indéfiable. Lorsque vous défiez l'État et que l'État découvre, il n'a qu'à sanctionner. Mais lorsque l'État ne sanctionne pas, il s'était... face au mal, c'est alors qu'on peut en quelque sorte considérer qu'il est aussi devenu complice. Il a appuyé sur la machine qui produit les intellectuels dans notre pays pour que cette machine en lieu et place d'être un instrument qui transforme les aptitudes de nos enfants en capacité, il devient plutôt un instrument qui fabrique les idiots parfaits, parce que vous voyez, vous l'aviez suivi, il n'y a plus rien. De bon, on ne peut pas espérer lorsque les enseignants travaillent, fonctionnent dans des conditions comme vous l'aviez entendu, là, il n'y aura plus rien. Ils ne pourront pas plutôt déployer leur énergie pour la formation des enfants. Et c'est notre pays qui marcherait toujours à contre-sens de la rotation de la Terre.
Merci. Jean-Bosco Pouna, votre réaction aussi par rapport à cette réflexion de l'auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani, mais aussi vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez comme plus de solutions pour mettre fin à cette situation?
Bon, laissez-moi vous dire que la crise, elle est bel et bien là, elle est bien installée, il y a un laisser-aller que nous tous, nous sommes en train de déplorer. Je voudrais dire ici que la formation continue, c'est une responsabilité de l'État. C'est la responsabilité première de l'État. Et lorsque vous prenez des pays, pour ne citer que ces pays, l'Angola par exemple, où il y a la gratuité des études, bien, c'est vrai, comme on ne cesse de le dire, que les parents doivent apporter quelque chose, mais c'est dans le cadre des frais indirects. Les parents assurent tout ce qu'est l'enfant, qui doit accompagner l'enfant au niveau de l'école, uniforme, tenue, objets classiques, livres, etc. Mais le reste, eh bien, c'est pris en charge de l'État. Dans les écoles, dans les pays où les choses... fonctionne normalement, marche bien, eh bien c'est comme ça que ça se passe. Nous, nous avons accepté la gratuité, notre société a accepté la gratuité au primaire, eh bien c'est irréversible, on doit continuer. Mais maintenant, l'État doit mettre les moyens. On ne peut pas continuer à dire que l'État n'a pas les moyens. Il a les moyens, il doit les mettre pour former l'enseignant, lui assurer le recyclage, une formation continue, afin qu'il soit toujours compétitif. Mais il faut également contrôler. Moi, je crois que dans l'action inspectorale, vous avez la formation, les contrôles et l'évaluation. Mais lorsque vous prenez ces différentes actions qui doivent être assurées par l'inspection de l'enseignement, eh bien, du point de vue de la formation, nous allons tous comprendre que la formation est très insuffisante. Du point de vue des contrôles, eh bien, là-bas, ça ne marche pas. Du point de vue des évaluations, c'est aussi un véritable rendez-vous manqué. Donc je crois qu'il faut que l'État se remette en question pour ne pas regarder. Nous avons parlé ici de la spoliation des sites scolaires. Mais quelles sont ces personnes-là qui sont en train de vendre les sites des scolaires? Vous arrivez au niveau de Matongé, vous trouvez des immeubles des Libanais qui sont en train de pousser. Dernièrement, nous avons fait un tour au niveau de Saint-Louis, collège Saint-Louis, en face du camp Kokolo. Eh bien, on est en train de construire. Mais l'espace scolaire, ce sont des espaces qu'on avait réservés pour construire des bibliothèques, pour construire des salles de conférences. Donc les espaces qui sont au niveau des écoles, ce ne sont pas des espaces qui doivent être récupérés par des tiers. Voilà un peu les désordres qui est au niveau du ministère. Et il faut absolument que Mme Lamineta joue son véritable rôle avec, bien sûr, tous ses collaborateurs. Donc nous disons ici, l'école que nous avons aujourd'hui a des problèmes. Quelles sont les solutions? Eh bien, nous avons besoin il faut absolument qu'il y ait des concertations avant la rentrée. Nous avons dit, les enseignants ont déjà dit qu'il faut absolument qu'il y ait des concertations du point de vue de la situation socio-économique des enseignants. Les problèmes doivent être réglés. Du point de vue des auxiliaires pédagogiques qui doivent entourer le maître. Parce que n'oubliez pas, à l'école primaire aujourd'hui, on ne remet plus les documents pédagogiques. Beaucoup d'écoles ne remettent plus les documents pédagogiques. Soit on utilise des documents pédagogiques anciens. Les anciens journaux de classe, c'est ce que les enseignants utilisent. Je crois que les choses ne doivent pas se passer comme ça. Nous avons besoin de concertations avec l'autorité des tutelles pour parler de toutes ces questions et donner des propositions en temps utile.
Merci, je considère ça comme votre mot de la fin, M. Jean Bosco Puna. M. Jean-Pierre Tshisobantou, votre mot de la fin?
Je crois que nous avons longuement réfléchi sur la manière dont l'école fonctionne. Il revient à l'État de tirer toutes les conséquences possibles des actes qu'il pose, parce qu'il n'y a que notre système éducatif qui peut former une main d'œuvre capable de participer à la recherche des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Nous ne pouvons pas attendre que les gens soient formés ailleurs et qu'ils reviennent avec des solutions qu'ils doivent appliquer sur les problèmes du pays. Il faut plutôt encourager ce qui se passe ici et chercher comment améliorer ça. Ça va dans l'intérêt de la nation et pour le bien-être des générations à venir.
Et si rien ne change, pourquoi ne pas demander aussi l'implication du Parlement, n'est-ce pas, qui a le pouvoir de contrôler les gouvernements?
Oui, le Parlement a le pouvoir de contrôler, mais il faut que le Parlement fasse aussi du sérieux et une qualité. Il ne faut pas, parce que vous avez vu, il arrive des moments où les parlementaires et même tentent d'étouffer certaines initiatives de leurs collègues, initiatives qui partent dans le sens à contrôler le gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Et tout ça lorsqu'on interpelle, par exemple, un ministre responsable du portefeuille du fonctionnement de telle institution, et lorsque les parlementaires qui sont censés contrôler cela se mettent, se constituent en eux-mêmes comme des obstacles ou blocages, on peut alors les considérer aussi comme des complices, alors que les enfants qui fréquentent les écoles au Congo appartiennent aux électeurs de qui ils ont réussi son mandat de les représenter. Si ça continue comme ça, je crois que le peuple lui-même, dans ses habitudes, il va juger bon et voir comment les sanctionner aux législatives prochaines.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, M. Jean-Pierre Tshisobantou, d'être venu ici au studio, participer à cette émission. Merci également à Jean Bosco Puna qui est intervenu depuis son téléphone. Et malheureusement, on n'a pas eu M. Nestor Maroy, qui est promoteur d'école, qui devait être là. Il a donné pourtant son accord de principe, mais malheureusement, il n'a pas décroché son téléphone. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission, mais aussi à Dona Madimba et Benjamin Moudoumbi qui l'ont réalisé, et à Sylvain Baogwere et Alain Goy qui étaient à la technique. Chembe Eloku a assuré le live de cette émission. À la présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite au programme sur Radio Capi.